France Culture. Signe des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous. Le 7 octobre 2023, l'actualité au Moyen-Orient a pris une dimension monstrueuse, mondiale, qu'elle n'a plus quittée depuis. Une actualité dont les images submergent l'esprit, bloquent toute réflexion, alimentent la virulence virale de débats passionnés, fixés autour de mots que l'on agite comme des étendards transgressifs. Dans ce déluge d'informations et d'imprécations, un livre qui sort en ce moment tranche. Il s'appelle « Parler sans détour, lettres sur Israël et la Palestine » et il est signé Anoush Ganjipour et Jean-Claude Milner. Le premier est iranien, philosophe de la pensée islamique et se définit comme progressiste de gauche. L'autre est français, d'origine juive, linguiste et peut-être l'un de nos derniers grands philosophes. Leur livre est un dialogue épistolaire autour de la guerre actuelle et de ses répercussions. Et si je dis qu'il tranche, qu'il est unique, ce n'est pas seulement par sa froideur passionnée et rigoureuse, c'est parce qu'il va complètement à contre-courant de ce qui s'écrit habituellement. Là où l'on s'attendrait à un ouvrage de réconciliation prônant la paix, comme on peut en lire tant, Parler sans détour expose en effet sans phare ce qui sépare les deux auteurs et il le fait avec une précision, une brutale absence de morale facile de part et d'autre, que les questions de fond qui se posent à nous tous sous l'actualité de cette guerre de 100 ans que l'on appelle le conflit israélo-palestinien nous apparaissent soudain beaucoup mieux. Bonjour à tous les deux, bonjour Jean-Claude Milner.
Bonjour.
Vous êtes linguiste, vous êtes essayiste, vous êtes philosophe, je viens de le dire. Vous avez écrit près de 40 livres, je crois. Pour en citer quelques-uns, L'œuvre claire, Lacan, La science et le philosophe, Les penchants criminels de l'Europe démocratique, Existe-t-il une vie intellectuelle en France, et même Harry Potter à l'école des sciences morales et politiques. Et vous avez publié cette année Relire la révolution aux éditions Verdier. Anoush Ganjipour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe spécialiste de la pensée islamique. Je viens de dire, chercheur au CNRS au centre Jean Pépin, et vous avez écrit Monothéisme et politique, modernité, sécularisation, émancipation, ce qui est un collectif sous votre direction en 2022, et L'ambivalence politique de l'islam, pasteur ou léviathan au seuil en 2021. Et je vais commencer par vous, puisque c'est vous qui êtes à l'origine de ce projet. Vous écrivez dans la préface Je ne suis pas issu d'un milieu de notables du Proche-Orient, du Proche et du Moyen-Orient qui envoie traditionnellement ses enfants aux écoles de Paris, Londres, New York. Mon enfance et mon éducation ont été celles d'une classe populaire entassée au sud et au sud-est de Téhéran. Et c'est comme ça que vous vous définissez pour présenter ce livre qui commence donc juste avant le 7 octobre et s'arrête exactement un an après. Qu'est-ce qui vous a motivé pour quel a été le déclencheur? Vous dites qu'au moment du 7 octobre, vous êtes senti soudain très seul en France.
Je me définis comme quelqu'un qui vient de la dite roue du Moyen et Proche-Orient. Pour préciser d'abord un point, je suis pas comme on dit, un Moyen-Oriental d'exception. Je ne présente pas une partie de la population Moyen-Orientale qui est plus proche des valeurs de la vision du monde occidental. Quand le 7 octobre est arrivé, il y avait un basculement total dans ma mentalité, dans le sens où j'avais cru, après presque deux décennies, faire partie de la société française, être un petit membre de sa communauté universitaire, intellectuelle, et en bref, avoir un deuxième pays qui s'appelle la France. Après le 7 octobre, j'avais l'impression de perdre tous les repères qui me permettaient de me situer dans cette société et de m'orienter en quelque sorte. Je n'arrivais plus à déchiffrer ce que je voyais, ce que j'entendais dans les médias, sous la plume de mes collègues, de mes proches, de tous les camps, c'est-à-dire c'était pas uniquement les pro-palestiniens ou les pro-israéliens, c'était l'ambiance générale. Et dans cette ambiance, moi qui connaissais l'œuvre de Jean-Claude Milner, qui appréciait beaucoup tout en étant en désaccord politique sur un certain nombre de choses, en particulier la question du Moyen et Proche-Orient et d'Israël. J'avais remarqué le même silence de la part de Jean-Claude Milner. Après deux mois de silence, finalement, j'étais obligé d'écrire quelque chose, ne serait-ce que pour exprimer, si je puis dire, mon silence et les raisons de ce silence. Et j'ai osé écrire à Jean-Claude Milner parce que nous nous connaissions de loin, pour lui demander pourquoi ce silence alors que j'étais sûr qu'il observait la situation, il méditait. Et je lui avais communiqué mon texte, comme j'explique dans la préface. Après longtemps, j'étais surpris de voir sa réponse détaillée, minutieuse, la première lettre de l'ouvrage. Et cela a été le début d'un échange épistolaire qui était très important pour moi, justement pour clarifier les raisons de nos désaccords.
Et Jean-Claude Milner, qu'est-ce qui vous a... Pourquoi vous avez accepté, en fait, cette correspondance ?
D'un certain point de vue, je reprendrai, mais d'une autre manière, le constat d'Anouk Jean-Jipour, à savoir mon silence. À quoi mon silence était-il dû ? Mais c'est dû à deux choses. D'une part, ça peut surprendre, mais je n'ai pas vraiment accès à la publication. Je peux publier des livres, mais publier des articles liés à des circonstances, les portes ne me sont pas ouvertes.
Ah d'accord. Ah bon ?
C'est une donnée.
Bon.
Elle peut surprendre, mais, oui. Mais c'est une donnée. Et alors on me dit toujours, mais c'est parce que... Vous ne faites pas l'effort de décrocher votre téléphone. Ben oui, je ne fais pas l'effort de décrocher mon téléphone.
Non, ça n'aide pas, ça n'aide pas. Je vous confirme.
La deuxième raison, c'est que je n'étais pas du tout sûr de pouvoir dire des choses qui soient compréhensibles ou comprises. Autrement dit, je prévoyais, si je m'exprimais, un malentendu immédiat. C'est une affaire d'habitude. À plusieurs reprises, quand je me suis exprimé, j'ai eu le sentiment qu'on ne comprenait pas ce que je disais. Dans la situation particulière que représentait la lettre, ou plus exactement le texte que m'a envoyé Anouk Jean-Jipour, j'étais mis dans une position un peu particulière parce que le texte d'Anouk Jean-Jipour énonçait un embarras de son côté à lui, mais un embarras dans lequel je ne me reconnaissais pas du tout.
Oui.
Et dont il présentait les raisons, et des raisons que je ne partageais pas. Mais au moins, j'ai eu le sentiment que, ne serait-ce qu'en expliquant pourquoi je ne partageais pas telle ou telle raison, ou pourquoi je ne partageais pas telle ou telle conviction présentée par Anouk Jean-Jipour, au moins à titre de différence, quelque chose serait compréhensible par mon interlocuteur.
Et pas seulement par l'interlocuteur, parce que c'est ce qui fait précisément, c'est ce que j'ai dit, c'est ce qui fait la richesse du livre, en fait. C'est ce désaccord que vous creusez de lettre en lettre. Cette crise, Anouk Jean-Jipour, je vais essayer de résumer le début, c'est la crise de ce que vous appelez les intellectuels progressistes du Moyen-Orient, groupe dans lequel vous vous inscrivez, activistes, journalistes, étudiants, écrivains, philosophes, chercheurs, etc. Sommet de choisir entre deux camps, deux parties, deux mondes. D'un côté, le Hamas capable d'utiliser ses propres, je vous cite, hein, capable d'utiliser ses propres citoyens comme bouclier humain, de mener ses actions militaires sous couvert de d'écoles ou d'hôpitaux ou de cibler ces derniers par mégarde entre guillemets, c'est-à-dire obéissant le Hamas obéissant au modèle iranien et à son mentor politique qui était Téhéran. Et de l'autre, si vous acceptez que l'attaque du 7 octobre a été infâme, que les Israéliens ont droit de vivre en sécurité, alors vous êtes d'office rangé dans le camp du club des amis d'Israël. Et alors il faut tout prendre en bloc, sans trier, accepter les erreurs stratégiques, accepter les bombardements d'hôpitaux, etc. Et jusqu'au moment où vous retrouvez inclus dans ce que vous appelez l'alliance du bien. Et c'est ainsi qu'on devient un bon intellectuel moyen-orientaliste qui embrasse sincèrement les valeurs de l'éminente civilisation. Et c'est tout ça que vous refusez. La crise se double du fait que, d'après vous, étant un intellectuel donc formé, un intellectuel de gauche donc formé aux idéaux occidentaux, le surmoi occidental pèse d'un poids particulier, non seulement sur vous, mais sur l'ensemble du monde oriental.
Oui, tout à fait. Cet embarras vient du fait que lorsque vous venez du monde du Proche et du Moyen-Orient, la polarisation que vous constatez déjà dans ce monde se reproduit en quelque sorte aujourd'hui dans la société occidentale. Alors, avec une inversion effet de miroir qui est digne d'attention mais qui est largement ignorée. Pourquoi je me pose la question, c'est une question qui s'impose aux gens comme moi, pourquoi par exemple les idées défendues par le camp progressiste, par les féministes du Proche et Moyen-Orient, par les sots qui essayent de faire une résistance contre les différentes sortes d'autocratie, de tyrannie, et même, y compris, des formes d'islamisme, dans mon cas, l'État islamique, lorsqu'ils se retrouvent sur le sol occidental, ils sont obligés de faire un choix qui va dans le sens inverse, c'est-à-dire les progressistes se retrouvent ou sont accusés de défendre des idées qui sont aujourd'hui largement défendues par le camp réactionnaire, conservateur ou ce qu'on dit le bloc de la droite, et vice versa. Lorsque nous avons un dialogue avec ceux qui ont été nos maîtres, qui partagent les mêmes idées de gauche avec nous, finalement il y a un désaccord fondamental parce que eux, lorsque leurs idées, leurs positions sont transplantées sur le sol du Proche et Moyen-Orient, se retrouvent du côté des réactionnaires, des islamistes, etc. Ça me permet de compléter votre première question parce que ça concerne aussi mon embarras, c'est en direct rapport avec le choix de mon interlocuteur. Mmh. Comme vous avez insisté dans votre introduction, il ne s'agissait pas, ni pour moi, je pense que Jean-Claude Milner partage cette idée avec moi, il ne s'agissait pas de faire un dialogue pour arriver en paix avec, tout d'abord parce que je ne suis pas en guerre avec Jean-Claude Milner, mais plus profondément, il s'agissait de faire entendre une autre voix des deux côtés, une autre voix que je constate après 20 ans, qui est complètement inexistante, ignorée. Pourquoi on a l'impression qu'il y a un conflit, il y a l'Occident et le Proche et le Moyen-Orient, il y a l'islam d'un côté, de l'autre, les Lumières et ses valeurs, il y a le conflit entre Israël et la Palestine, et chaque côté considère l'autre comme immoral, illogique, sans raison, qui a uniquement un langage de force, qui essaye d'imposer ce langage à l'autre. Donc j'ai choisi de parler avec Jean-Claude Milner parce que il faut insister sur un point. Jean-Claude Milner, avec ses publications, ses idées, c'est celui qui a développé un certain nombre d'idées et de thèses qui ont donné en quelque sorte, depuis les années 2000, j'étais pas encore en France, mais j'ai pu après comprendre et constater que il a donné avec, grâce à la force de sa pensée, en quelque sorte le ton à toute une série d'analystes et d'analyses qui essayent de comprendre la situation ici en rapport avec l'antisémitisme, la question juive, le conflit entre Israël et le monde arabe, et en particulier les Palestiniens, etc., etc. Et donc, j'ai cru utile d'aller interroger la source et avoir d'essayer de faire entendre ma voix.
Alors, dans le dialogue, vous n'êtes pas exactement la même place dans ce dialogue. Vous, Anoush Ganjipour, vous revendiquer le fait de transgresser un peu les règles de la recherche, c'est-à-dire que vous êtes acteur et vous mettez en scène en quelque sorte cette crise intellectuelle dont vous parlez, c'est-à-dire que vous dites bien que les règles de la recherche m'interdisent d'utiliser par exemple le mot Occident sur plusieurs registres différents, je le fais quand même parce que la prise en compte d'une telle conception me paraît nécessaire pour qu'une discussion puisse avoir lieu entre nous, entre deux points de vue occidental et oriental. C'est-à-dire que vous vous mettez en scène en quelque sorte comme acteur de cette crise soumis à la pression d'un idéal occidental moraliste que vous critiquez et dont vous dites que les intellectuels de gauche ont participé, à l'élaboration duquel les intellectuels de gauche dont vous êtes ont participé, on va y venir dans une seconde. Et Jean-Claude Milner, vous abordez les questions à partir d'une position beaucoup plus en retrait, en quelque sorte, en observateur, d'une certaine façon.
Oui, distancié, disons, oui. J'emploie le terme de distance. Cela tient sans doute à une situation personnelle. Ça tient aussi à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la manière dont plusieurs de mes interventions ont été reçues, c'est-à-dire dont elles n'ont pas été reçues. En vérité, elles ont été soit rejeté, soit accepté, mais si j'ose dire, en les teintant d'une espèce de, en les saupoudrant d'une espèce de sucre qui les rendait
digestibles.
Oui, peut-être indigestes, mais ouais, plus agréables au goût. enfin, quelque chose de cet ordre. Donc, oui, j'ai choisi d'adopter une position distante et de fait, si l'on reprend la question de l'Occident, je me suis attaché au cours de cette correspondance à donner de l'Occident une définition extrêmement matérielle.
Oui, c'est-à-dire, vous dites que l'Occident est une notion politiquement militaire. Ni anthropologique et encore moins, c'est là où vous divergez complètement de Anoush Ganjipour, encore moins doté d'un programme moral ou progressiste.
C'est cela. Il y a fondamentalement, je le dis d'ailleurs sans embâge, l'Occident, c'est la forme, disons, acceptable. Parce qu'elle est, alors là, effectivement hypocrite, c'est la forme acceptable de l'affirmation que la race blanche a vocation à dominer le monde et qu'elle peut y parvenir si elle s'unifie. Elle ne s'unifie pas complètement, mais elle s'unifie assez largement si les pays d'Europe, et notamment les pays d'Europe occidentale, acceptent la suprématie militaire, économique, mais aussi idéologique, en termes de modes idéologiques, des États-Unis. Alors, il est possible qu'au moment où nous parlons, l'arrivée de Trump au pouvoir fasse vaciller ce dispositif. Encore qu'il soit trop tôt pour mesurer. Mais enfin, mon interprétation, ma présentation est extrêmement, appelons-la, matérielle. Alors que la présentation de Anoush Ganjipour est effectivement, il le dit lui-même, déterminée par les représentations que les différents courants et régions du Proche et du Moyen-Orient se sont constitués de l'Occident. Là, évidemment, ça veut dire que sur toute une série de questions, notre point de vue est différent parce que nous voyons les choses d'un point différent.
Oui, alors Anouch Gandhipour, l'un des points centraux de votre argumentation, c'est donc l'Occident n'est pas seulement un espace géopolitique, une politico-militaire, mais bien doté d'une sorte de programme théoriquement issu des Lumières, qui met en exergue les droits de l'homme dans son discours, pour mieux les trahir une fois sur le terrain quand ses intérêts le nécessitent, c'est-à-dire la plupart du temps. Et alors vous citez plusieurs exemples de ça. Vous citez évidemment Guantanamo. Vous êtes très sévère avec les droits de l'homme. Et une des propositions que vous faites pour un intellectuel de gauche me sidère, vous demandez à l'Occident qu'il abandonne sa posture droit de l'hommiste, qu'il défende ses intérêts où il veut et auprès de qui il veut, Israël, les Palestiniens, l'Arabie Saoudite, Saddam Hussein, mais sans faire appel dans son jeu politique et géopolitique aux droits de l'homme, à la cause féministe, à son devoir universaliste vis-à-vis des victimes, etc. C'est-à-dire que vous reprenez à votre compte, peut-être même avant qu'il l'ait prononcé, ce que dit Trump en ce moment, et notamment en Arabie Saoudite récemment.
Alors, moi, il faut préciser que je propose ça comme une solution, disons, limite, pour sauver les droits de l'homme et le féminisme, c'est-à-dire détacher ces notions de l'usage étatique en fonction des politiques. Il faut le dire que si on critique le colonialisme, dès le début, s'est doté de l'ensemble de ces devises ou slogans moralistes pour pouvoir étendre son pouvoir, pour mieux dominer les autochtones, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs, en Amérique ou en Inde, par exemple. Mais pour répondre de façon plus détaillée à votre question, j'ai une position qui est la position des immigrés qui, comme moi, des immigrés de la première génération, ceux qui, moi, je suis parti de mon pays, j'ai quitté mon pays lorsque j'avais déjà 28 ans. J'étais formé à une autre culture, même si cette autre culture avait toujours des éléments modernes, mais disons que j'avais plutôt un pied dans la culture iranienne, une formation dans les sciences islamiques, la littérature et la culture islamique. Et après, je me suis formé à l'école des Occidentaux. Donc c'est sciemment que j'adopte cette position entre les deux qui reflète en fait une partie de la population de l'Europe et de l'Occident aujourd'hui. À partir de cette position, je constate que la conception matérialiste de l'Occident doit être complétée par une autre conception que j'appelle la conception anthropologique, c'est-à-dire la façon dont l'Occident est conçu par ces autres, qui sont dans mon cas les Moyens et les Proches Orientaux. Et la définition matérialiste proposée par Jean-Claude Milner me paraît d'autant plus problématique qu'aujourd'hui une partie de la population en Occident même qui viennent du dehors partagent cette idée ou cette conception anthropologique vis-à-vis de l'Occident. Donc il faut tenir compte de cette conception anthropologique. À partir de du moment où on tient compte de cette conception anthropologique qui a des aspects historiques, politiques, géopolitiques, etc., on est obligé de constater l'usage qui a été fait de ce qu'on appelle l'héritage des Lumières, le rationalisme, le christianisme, évidemment comme arrière-plan de tout cela. Dans le contexte de l'histoire moderne, ce qui a été fait au Proche et Moyen-Orient et de façon globale, les rapports entretenu entre les deux pôles, en quelque sorte.
Alors, bon, il y aurait énormément de choses à dire qu'on n'a pas le temps de développer ici sur cette question d'un Occident qui aurait été, si je comprends bien, exclusivement colonialiste et que donc l'héritage est lumière, qu'on ne pour rien n'est que le produit d'une hypocrisie dans votre logique. C'est de cette hypocrisie que vous dénoncez.
Non, justement, je me détache de cette idée un peu manichéenne parce que non, je dis s'il y a une voix qui est maintenant qui se fait moins entendre, qui est la voix des progressistes et dont je fais partie, cette voix refuse de réduire ce qui est l'Occident, ce qui est la modernité, à simplement un pouvoir colonial qui a voulu, par hypocrisie ou démagogie, etc. Okay. Non, mais je tiens à cet héritage, je me suis nourri de cet héritage.
Oui, c'est compliqué.
Et donc voilà. N'empêche que cette position entre les deux me permet d'avoir un regard critique sur la modernité, mais également sur l'autre, qui est l'islam, la culture islamique ou ma propre culture iranienne.
Alors, Jean-Claude Milner, vous partagez pas du tout cette conception d'un Occident, cette conception anthropologique d'un Occident, d'une part, ni non plus l'idée d'une hypocrisie qui est pour vous une sorte de, ça va sans dire et ça mérite pas de.
Oui, c'est donc je ne reviens pas sur la différence de définition concernant l'Occident, qui pour moi est une, que j'utilise dans cette correspondance comme une notion, comme je l'ai dit, purement matérielle. Je ne reviens pas là-dessus. Ce qui est, à mon avis, important, ce sont disons les conséquences que l'on peut en tirer. Autrement dit, je prends cette notion d'hypocrisie. Pourquoi est-ce que je ne l'accepte pas? Je ne dis pas que l'hypocrisie n'existe pas. Mais c'est une notion qui concerne la morale individuelle. Et je crois ne pas avoir de sens au niveau global. Pour dire les choses autrement, je suis tout à fait d'accord pour dire que la suprématie que l'Occident a pensé pouvoir exercer sur des parties du monde qui, à ses propres yeux, ne relevaient pas de l'Occident, je suis tout à fait prêt à admettre que cette suprématie avait un versant idéologique fondamental. Bon, non, on peut dire depuis 1945 jusqu'à l'élection de Trump, je veux dire la réélection de Trump, on peut dire que globalement, les maîtres mots de cette idéologie, de cette face idéologique de la domination occidentale, étaient démocratie, droit de l'homme, liberté, avec liberté du commerce comme, en quelque sorte, conséquence naturelle des libertés politiques, etc. Que tout cela puisse être résumé sous le chef de la modernité, je pense que c'est exact. Que quand on considère les actions des pays occidentaux pris un par un, ou de l'Occident pris dans son ensemble, c'est-à-dire cet ensemble dominé par les États-Unis, que si l'on considère les actions, on voit qu'à tout instant, il y a infraction à l'égard de ce qui est appelé les valeurs proclamées. Bien entendu, je dirais que cela va de soi. Autrement dit, l'histoire à partir du moment où on considère que l'histoire existe, l'histoire est faite de ce que j'appelle la disjonction entre les faits, les actions d'un côté
et
les discours. Ça n'est pas une nouveauté, c'est ancien et ça se trouve partout. Ça n'est pas propre à l'Occident. Je cite l'exemple du Japon dans les années 30, mais je pourrais citer d'autres exemples. Il est d'ailleurs assez frappant qu'parmi les propos occidentaux à l'égard des non-occidentaux, vous trouviez extrêmement fréquemment l'accusation à l'égard des non-occidentaux de tromperie. À l'égard des Chinois,
ça remonte
à très longtemps, à l'égard des Phéniciens, la notion de mauvaise foi phénicienne était une manière pour les Grecs, puis pour les Romains, de se désigner comme les futurs maîtres de l'Occident face à des Orientaux, etc., etc. Donc, je ne crois pas que la notion d'hypocrisie soit
pertinente.
Ce qui me frappe, en revanche, c'est si je, à moins que j'ai mal compris, en tout cas ce que j'ai compris à travers la présentation d'Anouk Jansipour, c'est la manière dont les intellectuels du projet du Moyen-Orient ont accepté pendant toute une période le discours de ce qu'on peut appeler les puissants dans le monde occidental sans se préoccuper du fait que à l'intérieur du monde occidental vous aviez des rejets. Autrement dit, on a le sentiment que le discours, par exemple, des droits de l'homme, de la démocratie, etc. Il n'a pas été sans être critiqué,
bien sûr,
en France, bien entendu, mais pas seulement, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. On a l'impression que ça n'a pas mordu.
Malheureusement, on n'a pas le temps de tout aborder dans le livre, mais l'enjeu de cette question de l'Occident dans le livre est évidemment mis en rapport avec Israël. Le débat entre vous, le fond, c'est que Anouk Jansipour, vous prenez une désoccidentalisation d'Israël, en quelque sorte, si je comprends bien, qu'Israël cesse de représenter à ses propres yeux et cesse d'aller chercher protection auprès de l'Occident et accepte son orientalisation progressive. Je vous caricature en disant ça ou c'est à peu près ça?
Vous ne me caricaturez pas, mais ce n'est pas tout à fait ce que j'essaye de développer dans l'ouvrage.
Abandonner d'une part d'aller chercher le soutien à l'Occident, auprès de l'Occident systématiquement, et d'autre part les constantes références historiques à l'Occident, dont la référence massive à la Shoah.
Si vous voulez, je pense que ce problème résume en quelque sorte une série de problèmes que nous avons essayé d'aborder avec Jean-Claude Milner.
Juste une phrase pour résumer. Vous dites que, en fait, au Moyen-Orient, Israël n'a d'autre choix que d'être une promesse. Et cette promesse, c'est de sortir de l'impasse occidentale, en quelque sorte.
Je ne sais pas si Israël n'a pas d'autre choix qu'être une promesse. Vous, son histoire de la Genèse, la façon dont Israël a été conçu comme un projet inscrit directement dans la modernité, et donc un prometteur de quelque chose comme la conciliation entre le monde oriental et le monde occidental, le projet qui n'a pas été en fait réalisé pour une série de raisons. Je pense que pour répondre à cela, il faut aborder plusieurs questions, même rapidement. Je pense que vous avez évoqué la question de l'antisémitisme ici. Nous abordons largement cela. Et ce qui est, pour reprendre la terminologie de Jean-Claude Milner, la judéophobie en Orient que je récuse et je considère comme une animosité vis-à-vis des Juifs qui est directement liée à la question israélo-palestinienne et également le rapport des cet attachement entre l'Occident et Israël a une conséquence extrêmement importante qu'il faut prendre en considération, c'est le rapport des Juifs, qui est lié aussi à leur histoire, de partout dans le monde, ce qu'on appelle les Juifs d'exil, avec Israël d'une part, et dans le sens inverse, le rapport des Juifs citoyens d'Israël avec l'Occident. J'ai été très frappé quand les journalistes scandinaves m'ont raconté la première délégation qui est partie pour faire le reportage sur les dégâts de 7 octobre et interviewer les rescapés de ce massacre. Et les rescapés eux-mêmes, on m'a rapporté qu'ils ne se considéraient pas comme victimes de la haine de juifs, mais comme les occidentaux victimes de la haine vis-à-vis de l'Occident. Donc ça, je pense que nous sommes au corps du problème des deux côtés. Et même la façon dont Israël, en tant qu'État-nation, a été en train d'interagir pendant toute son histoire avec ses voisins, souffre de ce problème jamais réglé qui est finalement son rapport avec le bloc occidental et en particulier avec les États-Unis. Je pensais que s'il y avait une certaine émancipation de cela, de ce rapport-là, il pouvait y avoir une autre manière d'interagir de la part d'État d'Israël avec ses voisins et aussi la réception d'État d'Israël par ses voisins.
Ce que vous dites, c'est que l'antisémitisme ontologique, ou la judéophobie ontologique, est en fait un héritage de ce bloc occidental, en l'occurrence européen surtout, mais n'appartient pas en réalité à l'Orient en tant que tel, et n'est que l'antisémitisme qu'on y voit n'est que le produit de l'histoire contemporaine, essentiellement le produit et particulièrement de la question israélo-palestinienne. Et Jean-Claude Milner, vous inscrivez complètement en faux contre ça, et vous faites la distinction entre l'antisémitisme d'entendement et l'antisémitisme de passion, en disant que l'antisémitisme de passion est profondément ancré en Orient, et que l'antisémitisme d'entendement est une forme, la judéophobie plutôt d'entendement, est une forme de judéophobie structurée par une forme de scientisme occidental. Vous faites cette distinction entre les deux.
Oui.
Et vous dites qu'on ne peut pas en sortir, en fait, en quelque sorte.
L'antisémitisme est une chose relativement... Le nom est relativement récent. Oui. 19e siècle, et la chose est relativement récente. Ce qui a précédé en Europe, c'était ce qu'on appelle faussement l'antisémitisme, parce que c'est fou, parce que c'est anachronique, que je préfère appeler la judéophobie qui a existé en Europe, judéophobie de passion, et j'emploie le mot passion aussi en allusion à la passion du Christ, puisque c'était une judéophobie chrétienne en Europe, et qui a continué, en fait, aux États-Unis.
Mais vous dites que cette judéophobie de passion est très présente en Orient. Et alors, c'est une des sources de votre conflit.
Je pense qu'elle est fondamentalement présente en Orient, et je pense, ça complique, si j'ose dire, le tableau, que son origine n'est pas du tout l'islam. L'islam n'avait aucune raison de devenir l'aliment d'une judéophobie passionnelle, éventuellement d'un antisémitisme ou d'une judéophobie d'entendement, pour des raisons de rapport de force, peut-être, éventuellement. Mais non, ce que je pense, c'est que le hasard historique a fait que le Proche et le Moyen-Orient musulmans se sont développés sur les anciennes terres de l'Empire byzantin, et que dans l'Empire byzantin s'était développée une judéophobie de passion. Et cette judéophobie de passion s'est en quelque sorte étendue à l'ensemble des populations, disons pauvres. C'est pour cela que je n'accorde aucune importance aux écrits des philosophes musulmans qui effectivement ne portent pas de traces de judéophobie passionnelle. Pour moi, ça ne fait pas preuve. Alors, il est très difficile de trouver des preuves historiques, parce que les documents historiques n'éclairent pas sur les populations. Nous ne savons pas ce que les populations
pensent. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission. On a trois quarts d'heure, oui, je suis désolé, mais c'est des questions très lourdes et on a très peu de temps. Mais en fait, c'est là-dessus que votre dialogue à Chop, fondamentalement, c'est que, pour vous, Jean-Claude Milner, la haine du juif est une haine tautologique, en fait. On est le juif parce qu'on est le juif. Et vous, Anouch Kanjipour, vous y voyez le produit de circonstances historiques dépassables. Pour peu que les intellectuels progressistes trouvent le moyen d'aider à la fois Israël et à la fois l'Orient à sortir du carcan occidental. Je résume, c'est à peu près.
Pour dire deux mots là-dessus.
On arrive vraiment au bout. Hein.
Oui, je suis obligé de dire que je suis en désaccord profond avec l'idée de la haine de juifs, haine passionnelle de juifs. Je pense que cette idée qui a été au début développée en quelque sorte dans les réflexions de Jean-Paul Sartre sur la question juive est prolongée, renouvelée par Jean-Claude Milner ne tient pas compte de toute l'histoire qui nous sépare de la Deuxième Guerre mondiale donc il y a beaucoup de choses, Nakba, tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient comme le contexte historique de cela.
Voilà, on est obligé de s'arrêter ici. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
A short fuse, boom, bomb, shell, raising hell in white linen. She's been everywhere, seen everything, saw it on the big screen. Y'all got nothing on that. I said, ooh, ooh, child, what you gonna do? I said, ooh, ooh, child, what you got? I said, ooh, ooh, child, what you gonna do with them bleach blonde bottle blues? Cherry cola six pack, the pop and fizz, it hits you like a hammer. She is turning heads with them great legs. Seen her on the big screen, y'all got nothing on that. I said, ooh, ooh, child, what you gonna do? I said, ooh, ooh.
Voilà, merci Anouch Kanjipour et merci Jean-Claude Milner d'être venu discuter de ce livre qu'il faut lire pour comprendre ce qu'on vit aujourd'hui. Parler sans détour, lettre sur Israël et la Palestine aux éditions du Cerf. C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann avec à la technique Élise Le, assistée de Aurélie Marseille et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. Et voilà que je bafouille à nouveau.